Âme d'artiste, présenté par Lara. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une émission sur l'interview d'un artiste. Si l'artiste pouvait se présenter.
André Berle.
Artiste, oui, c'est un grand mot, je ne sais pas si on peut le dire, c'est un gros mot presque, artiste. Mais un vieux bricoleur, allez, qui débute tous les matins.
D'accord, et d'où vient cet artiste, originaire de Dordogne?
Alors j'ai été déporté à l'âge de 3 ans, je suis né à Tours, je suis un tourangeau. Et je m'aperçois petit à petit que je viens du centre de la France, puisque Tours étant la région de ma mère, la Touraine, et mon père venait, lui, de Montceau-les-Mines.
D'accord.
Mais, comme c'était une famille de militaires, ils ont tourné, viré. Lui est né à Colmar, j'ai des tantes qui sont nées à Lunéville, ainsi de suite, voilà. Mais c'est curieux le fait qu'on n'est pas de purs Périgord. Parce qu'on entend souvent dire « Oh, mais moi, je suis un vrai Périgord, etc. » Ce à quoi je dis, heureusement qu'ils sont sortis des grottes parce qu'ils auraient fini fous, tous enfermés.
C'est sûr. Et du coup, on va entrer directement dans le vif du sujet. Alors, comment l'art est rentré dans votre vie?
Alors, l'art, c'est un grand mot. Disons que j'ai bénéficié des livres de mes tantes, des livres d'école de mes tantes, et d'autres choses aussi, comme un miracle. On achetait, je crois, du chocolat ou je ne sais plus quel produit. Et c'était le chocolat Nestlé ou Poulain, je ne me rappelle plus à l'époque. Et il y avait des petites vignettes qu'on installait dans des cahiers. Et j'ai le souvenir, alors là, c'est, je vois l'Égypte, les pierres, les sculptures, les temples, couleur ocre. Et je vois les fonds bleus, le ciel, etc. Et ainsi de suite. Et puis les livres d'histoire, géographie, tout ça. Les cartes, ça m'a toujours un peu... Voilà. Voilà comment ça se passe. Et alors, autre chose aussi qui conditionne vraisemblablement, c'est que du fait que mon père est mort à la guerre en Indochine, j'étais un peu tout seul. Alors bon, j'étais entouré, famille, j'avais des tantes, j'avais beaucoup de copains, etc. Mais il arrivait que pendant les vacances, par exemple, les copains se barrent à la mer ou ailleurs, etc. Alors, bon, j'ai fait des centres de vacances, etc. Très, très bien. Mais j'ai eu des temps où j'étais tout seul. Et là, justement, je mettais le nez dans tout ça, jusqu'à préparer avec un copain, à 11 ans, route de Lyon à Périgueux, le quartier Saint-Georges, on avait fait un petit musée, les voisines amenaient leurs gamins, mais on avait 11-12 ans, les mamans amenaient leurs gamins, voilà, on avait un casque de poilu, on avait des dessins, on avait des petites conneries qu'on avait accumulées et qu'on déballait.
Donc en fait, la culture s'est venue très tôt pour venir...
Parce que disons que la vie a fait que je n'étais pas au Club Mickey à Arcachon, donc je me suis occupé d'autre chose. Et après, un peu plus vieux, j'ai pris le vélo, et là, c'est vrai que Saint-Georges, la route de Lyon, il faut l'imaginer, la forêt au-dessus, et là, on partait jusqu'à Tours, Marsannay, etc., on traversait les bois, alors que maintenant, c'est gavé, il y a des maisons, etc. Et c'est vrai que ça nous ouvrait la tête et tout un imaginaire.
Comme c'est venu dans l'adolescence, on peut dire, l'histoire de l'art et la culture dans votre vie.
Alors après, oui, toujours, ça c'est... J'étais pas trop dans le cadre. Là où certains copains plus vieux, un peu plus vieux, achetaient des... je sais pas quel truc, moi je me rappelle même plus. Mais moi, je m'arrêtais dans Périgueux, j'achetais des petits bouquins. Il y avait des tout petits livres Marabout, machin, sur les peintres, Van Gogh, tout ça, etc. Et ainsi de suite. Et puis, c'est vrai, j'ai bénéficié de faire beaucoup de camping. Alors ça, je le dis exprès, parce que des fois, on dit, tiens, j'ai été scout. Et on dit, ah, oh, ben le scout, Tintin, ça fait le blaireau, quoi. Et alors, j'ose dire, maintenant, à l'époque où on se trouve, en fait, nos camps, c'était des camps très libres. Il n'y avait pas de mirador ni de barbelé. Et ça, j'aime bien le dire, parce que ça fait son chemin, un petit peu. Et c'est vrai qu'on est... Et ça, ça nous a permis de découvrir des églises, des vieux châteaux, des ruines, et tout. Et ça, ça met le feu, toutes ces trucs, ces découvertes, ça, c'est...
Oui, ça vous a ajouté une liberté pour découvrir encore plus de choses que en étant enfermé.
Mais c'est vrai, je reviens à mon histoire, étant un petit peu tout seul, laissé, pas libre de faire ce que je voulais, mais un peu tout seul, on est obligé de gamberger un peu plus peut-être que d'autres.
Ça fait réfléchir sur la créativité, comment faire.
Et c'est vrai que après, moi j'ai beaucoup travaillé en insertion, j'ai fait des centres de vacances, etc. Mais plus tard, je travaillais en éducation populaire. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a des petits s'affronter, pas à la grosse difficulté qui casse complètement, mais ça permet de réfléchir et d'avancer par la suite. Ça, c'est un vaccin, quoi, presque.
D'accord.
Enfin, je vois les choses comme ça. Hein.
Et après, dans votre scolarité, vous avez choisi quelle étude ?
Alors, la scolarité, alors disons que c'est particulier. Quand on m'a mis à la crèche à Saint-Georges, j'ai cassé le carreau le premier jour. Et j'ai toujours cassé les carreaux. Alors en fait, bon, il y a eu des affrontements de ma part, j'étais un petit con, avec par exemple un chef scout. Le jeu se transformait en bagarre. Au collège, c'est pareil. J'ai le souvenir d'un pion, le malheureux, on avait annoncé que s'il continuait à sticoter les plus jeunes, on allait s'en occuper. Mais on était un peu plus vieux, là. Hein. On était en première, etc. Et là, bon, il y a eu bagarre. Et donc, autre chose, dans mon quartier, j'ai mis mes potes un peu partout, sur Périgueux, sur Saint-Georges. On a bénéficié d'une chose. On a bénéficié de la salle Luxe à Saint-Georges.
C'était quoi ?
Alors le Luxe, c'était un cinéma de quartier. Et c'était à la paroisse, ce truc. Et là, on a dit, mais on veut plus d'aumônier, on veut plus de trucs, ça. Et nous, on faisait de la poésie. On disait des textes à 4, à 3, 4, à une voix, à deux voix, etc. On a monté ça. Il y avait un petit... on montait des petites pièces de théâtre. Et on a un autre qui était plus... avait monté une chorale. Donc tout ça, voilà, ça a été très très formateur et très sympa, ça.
Oui, dès l'enfance, en fait, bercé dans la culture,
toujours
l'art, le développement.
Toujours un peu dans l'animation, ces trucs-là. Et alors après, j'ai mis le nez, et c'est vrai que là, c'est bien passé, j'ai mis le nez dans la formation de moniteur de colo. Alors la combine voulait que, par exemple, à un moment, par exemple, la Dodi, il faut imaginer, la Dodi, ce que ça a été à Périgueux. La Dodi, il y avait 600 gosses qui partaient à la Dodi à Saint-Laurent-sur-Manoir tous les jours. Deux services de 300. Un ramassage par quart, c'était un truc. Il y avait des petits moniteurs. Mais, pour pouvoir payer tout ce personnel, on était, alors à 16 ans, on était aide-moniteur. C'est le coup de... On se débrouillait, il n'y avait pas... Ainsi de suite, voilà. Et après, alors le truc de moniteur, les adolescents. Et après, j'ai fait des stages alors, avec une fédération de centres, les fédérations des centres de vacances familiaux. Et j'ai eu du bol de tomber sur une équipe extraordinaire, notamment Annette Dautry, Yves Danger, justement, Yves Petitet. Annette Dautry, qui était une des papesses des arts plastiques en éducation populaire. Et là, ils m'ont demandé, alors là j'avais 20 ans, j'ai fait des stages avec eux en 67, et en 68, j'ai refait d'autres stages, là, ils m'ont demandé de travailler avec eux à l'année. Donc, on faisait 200 jours de stage, là, on enquillait les stages les uns sur les autres pour rassembler des promotions d'infirmières, en IREO aussi, les instituts ruraux d'éducation, d'orientation, fait tout ce truc. Et un jour, j'ai craqué là aussi, parce que je suis un peu fantasque. Je venais de quitter un stage à Saint-Dié, dans les Vosges, et j'étais à la gare, j'étais dans le train, dans un compartiment, je vois un mec, il avait de la farine, tout ça. Il y avait un militaire, je me dis, l'autre il est notaire, l'autre il est ci, l'autre il est là, et toi qu'est-ce que tu fais ? Tu vas de stage en stage, c'est un peu artificiel. Et tu te présentes bien, mais après, au bout d'une semaine, d'un mois, il y avait des stages d'un mois, des stages de 15 jours. Voilà. Et la chance a fait, ça je dois le dire, le père Chinour, qui était tailleur de pierre à Saint-Laurent, me disait toujours d'aider, parce que mes activités, c'était modelage, sculpture, tout ça, dans ces stages. Et il me disait, mais t'es baboy, là, tes grimaces, tes sculptures et tout. Apprends la taille de pierre. Et il m'a donné un tuyau. Je suis allé voir le directeur de Rocamat. C'est une grosse boîte. Et l'agence régionale était à Angoulême. Et le mec me dit, bon, à la rentrée en septembre, peut-être je vous écrirai. Peut-être qu'on aura besoin de vous, on verra. Et moi, j'allais reprendre mes stages au bout de trois, parce que j'en ai fait 4 ans de ce truc. Et j'ai reçu un courrier, il m'a dit, si vous voulez, vous débutez, on vous prend manœuvre un mois à l'essai, à notre agence de Bordeaux, et après, le soir, on vous forme, vous allez le soir en libre, alors, hein, chez les compagnons, parce que j'avais quand même 24 ans, et on vous présente un CAP de tailleur de pierre. Et alors, je l'ai fait, quoi. Mais ça ne s'est pas fait tout seul, parce que j'étais plus vieux, et curieusement, je me suis accroché là où les jeunes, eux, les gamins qui avaient fait les stages de formation de taille de pierre traditionnels, comme plâtrier, comme couvreur, etc., eux, ils abandonnaient pour entrer qui dans l'administration, qui à l'hôpital, qui au CRS, ou n'importe. Et donc, je l'ai fait. Alors là, les gars de Bordeaux, comme le directeur d'Angoulême qui m'avait trouvé le truc, ils se sont dit, qui c'est ce mec ? C'est une mouche qui vient nous surveiller à notre agence de Bordeaux. Et c'était pas ça, mais le premier soir, je peux dire, j'ai pas mangé, hein. J'avais plus rien dans les bras parce qu'ils m'ont mis un truc avec des haches à pierre, des laits, à layer des pierres pour faire des rebords de piscine pour pas que ça glisse, faut le strier, disons. Le soir, j'étais dépaillé, et puis après, ils ont compris. Après, c'est moi qui faisais les lettres pour écrire à la direction à Paris. Bon, voilà. Je mettais l'ambiance.
Et donc, c'est comme ça que vous êtes...
Après, j'ai passé mon CAP de tailleur de pierre que j'ai eu. Alors là, j'étais très content. Parce que j'ai eu à faire, pour passer ce CAP, il y avait français, il y avait maths, etc. Et il y a un prof qui n'était pas compagnon, mais qui était dans leur société, et qui nous donnait des cours, et qui nous préparait pour le CAP. Et il nous a fait, à l'occasion d'un devoir, je m'appelle la machine libère, j'ai le souvenir, et puis il dit, mais vous n'avez pas travaillé à l'école, presque. Vous êtes des manuels, vous êtes comme si c'était une punition. Hein. C'était un peu ça, quoi. Mec avec les cheveux courts et tout. Et moi, il me dit, c'est très bien, c'est très bon, mais ce n'est pas de vous. Parce qu'il ne pouvait pas supposer, dans sa tête, des gosses qui étaient manuels, c'était des cons. Bon, voilà. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Bon, Et puis... comme j'ai retrouvé ma petite femme, Françoise, comme je faisais beaucoup de stages, je ne la voyais plus parce qu'on s'est connus, on était tout gamin, où j'ai dit, je vais revenir de Bordeaux, où je taillais les pierres, je vais venir à Périgueux. Et je suis rentré chez Rigoulet, qui sont maintenant au cimetière. Ils n'y sont plus d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils vont, mais bon. Et là, j'ai présenté mon CAP de marbrier, une année après. D'ailleurs, je m'engueulais avec le père Rigoulet, c'était Riri. Parce qu'à 4 heures, j'imposais pas, je disais, je me tire. Je faisais la journée continue, parce que je lui avais dit, moi je suis marbrier, maintenant j'avais mon CAP, je veux apprendre la gravure. Donc à 4 heures, je fais journée continue, je bouffe pas à midi. Il me disait, alors à midi, ils venaient, parce qu'ils étaient route de Bordeaux avant. Alors il me disait, t'étais tous les jours, il descendait, il avait ses gosses avec lui. Bon, viens manger et tout. Non. Et à 4 heures, je disais, chut, salut. Parce que c'était long, c'était des horreurs, attention, hein, bon. Et puis, gravure, non, j'ai un copain qui me dit, un périgordin, Yves Fort, faut dire les noms, qui était ébéniste, lui, qui me dit, dis donc, à la maison, il y a un mec qui vient, il passe voir mes parents, ils étaient antiquaires, place Saint-Louis. Il me dit, il restaure les fresques et les mosaïques, il cherche un marbrier, il cherche un gosse comme ça. Oh, banco. Je vais, alors là, je suis rentré, c'est lui qui avait monté la Socra à Périgueux. Donc je suis rentré à la Socra. Pendant 5 ans, j'ai bossé à la Socra. Alors là, je faisais beaucoup de déplacements. Et c'est marrant parce que ce que j'ai fait de déplacements pendant 4 ans en éducation populaire, j'ai fait tous ces stages dans le Nord, beaucoup. Et là, pas tous, mais la plupart. Et après, avec la Socra, alors là, moi, j'ai passé peut-être 6 mois de ma vie à Lyon. On a installé le musée, a fait les mosaïques dans le musée gallo-romain de Fourvière. On a déposé Otero, on a fait sur Bordeaux, Arles, Nîmes, partout. Là, c'était un boulot. Parce que c'est vrai qu'à première vue, on se dit, putain, mais des fresques, comment on enlève ça, qu'est-ce qu'on fait? Et puis bon, c'était très intéressant. Puis il nous a tous mis dehors pour raison économique en 78. Et moi, je me suis mis à mon compte. Là, j'ai fait ça jusqu'en 83, j'ai arrêté parce que j'étais plus poésie, expo, machin, truc comme ça, que gestion pure. Moi, je ne suis pas partisan dans mon truc, quoi. Et voilà, j'ai connu. Alors, les impôts m'ont accepté, un artiste libre. Et j'ai repris, alors j'ai toujours eu le cul entre deux chaises, pardon, mais travail avec des stagiaires ou travail professionnel. Alors, ils m'ont pris en tant qu'artiste libre, à condition que je ne fasse pas trop de taille de pierre, je fasse surtout des sculptures, des expos. Et j'ai travaillé alors, dans les écoles. Alors là, j'ai fait des trucs. Avec Éducation nationale, on a bossé beaucoup, toute l'équipe, la Noble, c'est des mecs maintenant, je ne sais même plus où il est, Noble, Noble Demeyer, Sylvie Weber. L'Éducation nationale, Pourtier et Brum, qui était à l'école normale, nous présentait le mercredi à des assurés une région. Tous les instituts venaient et disaient, alors on s'expliquait, on faisait notre expo, nous, ils regardaient, ah ben on prend celui-là, et on allait travailler ensuite avec leur classe, avec leurs élèves.
Et c'est donc là que les premières expositions, elles sont commencées?
Ah ouais, mais j'en ai fait un peu avant, on avait monté Artensio avec des copains. Et alors, dans le même temps de ces travaux avec des écoles, j'ai travaillé pour la Société d'encouragement aux métiers d'art, la SEMA. Et là, je faisais une année complète attachée à une école, à Haussé-Brade, à Beaumont, à Saint-Même, ainsi de suite, voilà, avec des réalisations. Mais les gamins mordaient, là, parce qu'au primaire, CM1, CM2, là, ça marche, ça fonctionnait bien, ouais. Puis voilà le truc.
Et du coup, en fait, avec les écoles, c'était un partenariat, il y avait des ateliers.
Mais au sein de l'école, je faisais des demi-heures, des heures, etc. Voilà. Et à un moment, j'ai fait toutes les classes en même temps. C'est beaucoup, c'est contraignant parce que c'est du fractionné, les écoles de Trélissac.
D'accord.
Et après, il y en a, alors là, ça s'est épaissi parce que avec Boulazac, Médiagora, j'ai monté des stages d'insertion. Enfin, j'ai travaillé avec Médiagora, oui. Pas Médiagora, Mosaïque. On montait des stages d'insertion. Et là, c'est vrai que c'était des adultes, soi-disant difficultés. Insertion, pour moi, c'était un mot impropre déjà, parce qu'on a tous dans la vie à s'insérer, à trouver nos parcours, etc. Et on a fait des fois, on a fait de belles choses, ouais. Et puis, j'ai bossé aussi à La Pérouse avec des aveugles, avec des non-voyants, avec des malentendants, avec Lysander, j'ai arrêté depuis un an, là, ouais. Et toujours, j'ai entretenu à faire des expos et des expos. Et alors, avec des potes, on a monté un truc à Périgueux qui a bien fonctionné. On a monté en 87, ouais, c'est vieux, ça, à la rue de la Sagesse, une galerie à l'Arnôtre. Mais là, c'était une bande de copains, quoi. Et c'était pas mal, avec Monnier. Alors, il y avait Monnier en peinture, Papeau, le peintre, etc. Jean-Luc Alain, Papy... Dimitri qui soudait, en fait, tout. Et là, on a accueilli beaucoup, il est passé beaucoup, beaucoup d'expos.
Combien à peu près?
Ça a duré 10 ans. Une autre équipe, ensuite, ça dure un certain sens. Hein. Une autre équipe souhaitait prendre un peu la direction de l'affaire, ça a changé d'orientation dans les années 2000. Mais nous, pendant 10 ans, on a tourné. Hein.
Et du coup, le fait d'avoir fait du coup tailleur de pierre, avoir été avec des ébénistes, etc., ouais. Ça a aidé à développer le style et l'art dans ce que vous faites maintenant.
Ben, ça, on n'arrête pas de toute façon, on apprend toujours. Et puis, comment dire, peut-être qu'on ne connaît pas assez ce genre de terrain. J'entends par là que, par exemple, par rapport à la taille de pierre, il faut bien dire qu'il y a 100 ans, en admettant, hein, un peu avant le ciment ou en même temps, que le ciment arrivait à fond, autour de la pierre, il tournait une vingtaine de spécialités. De la carrière à la mise en œuvre, à la pose, à la sculpture, sur vœux, il y en a qui faisaient que de l'escalier, d'autres de la cheminée, d'autres ainsi de suite. C'était beaucoup. Maintenant, un mec tout seul qui est tailleur de pierre, comme j'ai pu l'être à certains moments, on nous demande de tout. Il faut faire savoir. On nous demande le portrait de la cousine, du cousin. Une Sainte Vierge, une grenouille, faire une cheminée, il faudrait tout savoir faire. On ne peut pas être au niveau qui a été le niveau de certains à une époque. Les grands, alors, c'est après que... Alors, tout ça, on l'apprend au fur et à mesure. Puis, on a toujours à apprendre, parce que c'est énorme, c'est un domaine énorme. Parce qu'après, on se dit, tiens, je ne sais plus, moi, par exemple, des sculpteurs comme le Cavalier Le Bernin ou Rodin, etc., tout ce qu'ils ont fait. Ah oui, mais ça suppose du monde derrière. Des préparations, des techniques aussi qui des fois nécessitent beaucoup de monde, beaucoup d'argent, ça, beaucoup de choses.
Et puis,
c'est tout un monde et on apprend tous les jours. Moi, je continue à apprendre. Je suis toujours un peu branché, quoi, à regarder. Je suis capable, dans Périgueux, de voir des façades, dire tiens, ça, c'est à peu près telle année. Les cimetières, c'est des sources, c'est des mines terribles, ça. C'est gavé de décors, de petites réflexions, etc. Après, bon, il y a les phénomènes de ressemblance, c'est-à-dire un voisin fait faire une tombe, les autres la voient et disent « Oh, c'est pas mal, tiens, on va faire un peu comme ça, gna gna gna. » Bon, ouais. Mais normalement, on apprend tout, mais pour tout pareil.
Voilà. Oui, après, il y en a qui s'inspirent plus fortement que d'autres.
Ouais. J'estime avoir du bol ou de la chance dans la mesure où j'ai encore envie. Là, je prépare une expo en novembre à Trélissac. Ah ouais, novembre. Qui s'appellera Un jour qui faisait nuit. Je me fais de la pub comme ça.
Vas-y.
Et à Saint-Laurent-sur-Manoir aussi. Il y a 4 salles. Et qui sont. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de choses. Bah, par contre, je suis. Tout ce qui a été sculpture, j'ai un peu décroché dans la mesure où, une année, par exemple, je me suis retrouvé. J'étais invité avec Correa, Pajot et Le Proust. On était invités d'honneur à Nontron. Il y avait des expos dans tout Nontron. En même temps, j'exposais à Sainte dans une cave à vin. Et en même temps, j'exposais à Saint-Léonard de Noblat, à côté, après Limoges. On voyait que moi en camion. Et puis, attention, sculpture, ce n'est pas un tableau qu'on met au mur. C'était des pierres, des machins. L'autre jour, j'y ai repensé parce que je suis allé voir, j'ai fait une sortie avec mes stagiaires de Boulazac, là, et on est passé à Brantôme, et j'ai revu l'escalier, on a exposé, on a monté des sculptures, on les montait sur notre dos, dans la salle des moines, là, à Brantôme, à la veille. Alors c'est vrai, c'est beaucoup plus facile de foutre un dessin, un petit tableau, un machin. Bon.
Oui, le poids des tableaux et des
sculptures. Puis à un moment, on se calme, on se dit, attends, hein, Pépé, doucement.
Mais c'est bien que même après toutes ces années, eh bien, en fait, la créativité est toujours là, l'envie d'apprendre reste.
L'envie, alors, une des choses, si je peux donner, il n'y a pas de conseil à donner à personne, mais avoir envie, c'est même c'est une chance. Ça, je ne sais même pas si ça se commande. Avoir envie de faire des choses, c'est tout. Et surtout, c'est pour ça que la première fois que je t'ai vu à, comment ça s'appelle, à
l'Artothèque.
Parce qu'on se connaît, je le dis aux auditeurs, là. T'es vu à Trélissac, je t'ai dit, il faut que tu lises. Et c'est vrai, ça nécessite des explications pour... Parce que tout ça, c'est relié... Alors, je dis que j'écoute pas la musique, mais si. Mais c'est la musique, c'est les bouquins, les gars qui ont écrit aussi, puis connaître un peu les choses.
Oui, depuis ma bibliothèque...
Alors, parce que des fois, on s'est retrouvé à Lyon, notamment, il y avait une flûte sur une mosaïque gallo-romaine, et un collègue, là, bon, qui sortait, qui était un peu bené, qui disait, mais c'est pas une flûte de pan, ça. C'est pas une flûte. Il croyait que c'était une quatrelle, lui. Alors, attention, on était quand même sur du gallo-romain de 1000 ans ou 1800 ans, et oulala, et l'autre, putain, mais... Ben oui. Peut-être qu'il regardait... Non, à l'époque, ça n'existait pas, les émissions d'Hanouna. Bon, allez.
Et du coup, si vous deviez définir votre style maintenant...
Alors maintenant, je suis un vieux pirate parce que je sculpte, mais je sculpte des photos.
Et comment on fait ça ?
Ben, comme quand on regarde les nuages. Quand on regarde les nuages, on voit des formes qui sortent. Des lapins, des rats, des éléphants, tout ce qu'on veut, hein, etc. Ou des fois, on ne voit rien, mais bon. Des fois, il se peut que... D'ailleurs, c'est Vinci, je crois, qui disait, si dans les écorces, dans les vieilles peintures écaillées, dans les parquets, vous ne voyez rien. Il n'y a rien qui vous fait... N'achetez pas de couleurs, de crayons, de fusains, de machins. Ce n'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Voilà, je pars de ça. Parce que pour moi, c'est très contraignant. Je me suis vu, justement, l'artisanal, le fait de faire des boulots sur commande. Là, il faut un bloc de telle dimension. C'est comme une page blanche. Pour prévoir, tandis que se laisser aller à partir sur des trucs comme ça rapidement, ah ouais, là c'est pas pareil. Et alors, le hasard fait, ça fait longtemps que j'ai fait ça, les cartes par exemple. Il y a un moment où les cartes on les voit plus de loin, tu vois, c'est précis pour regarder la route, etc. Mais après, il y a des formes dans les cartes qui s'expriment. Et en éliminant autour, c'est comme si on sculptait. Et les photos, c'est pareil, clac. On retourne dans un certain sens. Ah, mais c'est autre chose qui arrive. Et il n'y a pas besoin de remplir tout un truc. Je suis sculpteur de photos. Et comme les photographes, c'est des gros... Ils sont gentils, mais alors, ouais, bon, voilà.
Et du coup, s'il y avait un point commun entre toutes les œuvres, ça serait lequel ?
Il y a souvent les gens, quoi.
Les gens, c'est...
Il y a de l'abstraction, mais il y a beaucoup, je mets beaucoup de ces personnages. C'est comme une grande... C'est pas une bande dessinée, c'est des bouts de gens, des bouts de corps, des bouts de machin, des... Voilà, ouais. Faudra venir voir.
Et du coup, il y a une exposition en novembre ?
Novembre et janvier-février.
Et est-ce qu'on...
Si, je suis vivant.
Toujours. Faut garder espoir.
Oui,
et est-ce qu'on... Elles seront où, les expositions ?
Trélissac et Saint-Laurent-sur-Manoir. Parce que... Et puis, il est temps que ça se fasse, parce que... Et puis, j'ai d'autres... On me demande des trucs, mais bon... J'en ai plein partout dans la maison. J'en ai sur les lits, j'en ai... C'est un vrai bazar. Hein. Ça sort, je fais des trucs... Ouais. Ah,
mais ouais. Du coup, vous continuez tous les jours de créer encore
un
et
peu,
encore ?
Un peu, Si je peux, je fais... Ouais, ouais.
Toujours avec l'envie et la créativité.
Faire un peu quelque chose, comme l'art contemporain, faire quelque chose avec rien, presque. Parce qu'entre nous soit dit, il se fait des trucs, bon... Mais là, c'est pas ça. Bon. Ça m'a appris aussi des choses. Hein. C'est vrai que j'ai mis le nez un peu dans l'anatomie, on met le nez dans l'architecture, on met le nez dans les matériaux, les outils, tout ça. Et mine de rien, on apprend, quoi. Hein.
Oui, et du coup, voilà. le principe de maintenant sculpter des photos, c'est un peu aussi pour garder...
Sculpter, c'est pas sculpter, mais disons par noircissement, en écartant, on fait monter quelque chose qui sort, ouais.
Et du coup, vous avez gardé le mot sculpter, entre guillemets, dans votre formulation, pour du coup, la sculpture que vous avez faite dans le passé.
Alors la sculpture, il y a des moments, mais ça peut-être... Pour les expos, je vais peut-être présenter d'autres trucs. Alors là aussi, j'aime bien partir d'un vieux caillou, de quelque chose qui a de la peau, qui a déjà de l'histoire. Et rajouter, transformer un petit peu, ça me plaît.
Lui redonner une seconde vie.
Coller, mais sinon faire un truc tout... Mais je suis difficilement adaptable parce que les univers sont... nos vies, sont, on est dans des univers de moins en moins grands. Il y a beaucoup de... Bon. Et puis c'est un peu sale, c'est salissant. Quoi. Le mec va dire, ça fait de la poussière. Hein. Alors tout le monde grogne un peu, quoi. C'est pas...
Et puis, faut trouver.
Et puis les gens aiment bien le produit fini. C'est pour ça que l'édition de bronze, c'est un petit bronze dans une maison, etc. Ah bon, voilà quoi. Mais tout est à faire.
Oui, forcément.
Tout est à faire et puis ça ne s'arrêtera jamais, ce cinéma-là.
Et du coup, comment vous prévoyez d'avance ce que vous allez faire pour une œuvre? Comment vous allez la former? Est-ce que vous le faites d'instinct? Ou est-ce que vous préparez
là,
avant
comme
des
dis,
recherches
d'instinct. C'est selon ce que j'ai, ce qui m'entoure.
Selon l'inspiration.
Selon ce qui m'entoure, voilà. Après, quand je suis à la campagne, bon, je vois des stocks de pierres, je vois des trucs. Là, je prévois un peu plus. Parce que j'ai travaillé là-dessus, je sais comment ça va, ce que ça va faire aussi. J'ai une habitude. Je sais, ah ben là, ça, je pourrais le mettre là, je peux faire ça. Voilà. Et puis les choses se font par série. Faut dire qu'on fait un truc, et puis on en fait 10, on en fait 20, et puis... Oh. Puis on passe à autre chose aussi, ça se fait. Mais c'est vrai que... Alors, moi, j'ai plein de trucs dans tout Périgueux, j'en ai vendu beaucoup, mais pas des fortunes non plus. Parce que les gars, beaucoup ont le boulard, hein. Les mecs, ils ont... c'est énorme, et tout de suite, c'est eux qui se cotent. Ils vont dire, mais ça vaut 3 500, machin, truc. J'avais envie, d'ailleurs, de faire une expo en disant moins cher que les Chinois. Mais je ne peux pas le faire, c'est la provoque, quoi.
Et à partir de quand vous avez vendu votre première œuvre réellement en tant qu'artiste?
Alors, ma première œuvre, je ne l'ai pas vendue, on me l'a prise. Et je me suis aperçu que souvent, ouais, parce qu'on fait des trucs. Moi, j'ai fait des choses, des petites sculptures. On allait chercher ça avec un copain dans des fermes, des vieilles, faire des bouts de pierre, etc. Mais les copains me passaient derrière à la maison, ils me tiraient des trucs. Ah ouais. Mais sinon, si, je l'ai vendu mais relativement vite. Mais ça, c'est très contraignant. Par exemple, à il y a 50 ans, j'étais locataire à Morillo. À fabriquer des trucs, des petits bas-reliefs. Et j'ai eu vendu où il y a le terrain des sports de Trélissac, il y avait un hôtel là. Et c'était, comment ça s'appelait, un truc d'artisan. Et là, on me demandait que des nanas avec des petits nichons, des trucs comme ça, sans rire. Alors vous en faites un, vous en faites deux, puis après, il y en a marre, quoi. J'ai même, à cette époque, un couple m'avait demandé, un mec un peu tordu, qui m'avait demandé une scène érotique, une scène d'amour, etc. Et plus tard, ça, c'est sa femme qui avait dit, c'était par le buraliste, ça. Et sa femme a dit, mais quand le docteur vient, on le cache.
Mais du coup, aujourd'hui, même dans vos
études... Oui, mais ça fait la même. Ça oblige à... Ben oui. Et puis c'est vrai que des fois, il y a besoin de rond, donc on fait des trucs, on est bien obligé, quoi. Faut plonger, hein, ouais.
Mais du coup, vous préférez qu'on vous donne une direction artistique ou quand c'est vraiment vous qui faites d'instinct ce que vous voulez?
Alors, j'ai fait du grand décor où on m'a laissé une carte blanche.
Et vous préférez ça?
Ah, bien sûr. Ouais, oui, oui, oui. Bon, alors attention, en contrepartie, ça se paye quelque part. C'est comme si on se faisait plaisir en travaillant. Et ça, c'est pas bon, ça casse le métier.
C'était très enrichissant d'un point de vue artistique et culturel.
Bon, mais c'est bien, Lara, faut lire beaucoup, faut rencontrer beaucoup de gens, faut faire beaucoup de choses.
Âme d'artiste, présentée par Lara.